Alors, Monsieur Adjab, peut-être nous indiquer la manière dont un Conseil général se saisit de ces questions et s'appuie ou accompagne ou s'articule avec les établissements d'enseignement et ici d'enseignement supérieur, mais pas que, c'est une passerelle, dans cette manière de prendre en charge la question du handicap. Et votre approche aussi, l'approche que vous développez au sein même du Conseil général pour appréhender cet enjeu de construire des politiques, des dispositifs d'accompagnement d'une politique handicap.
Tout d'abord, merci. Donc, Conseil général de la Nièvre, je resitue donc 220 000 habitants, Nevers la capitale, et on pourrait se dire comment un Conseil général d'une faible densité à de l'enseignement supérieur. Oui, c'est le deuxième campus de Bourgogne, après Dijon. Ensuite, il faut relativiser les choses. Hein. Donc, nous avons l'Institut supérieur de l'automobile, l'École supérieure d'art appliqué, puis des classes de prépa. Et je pense que la politique du handicap vient aussi des histoires qui se font sur les territoires. Et notre politique de maillage, elle a été créée sous plusieurs angles. Le premier, dans le cadre de Nièvre 2021, ça s'appelle, c'est un agenda 21 où il y a 45 chantiers ouverts et un travail de partenariat donc avec les services de l'État, avec les associations, avec le Conseil général. Sur l'agenda 21, par exemple, le Conseil général prend un tiers des chantiers donc des ouverts et il y a un chantier qui s'appelle Vivre ensemble. Mais vivre ensemble, ça rapporte beaucoup de choses. C'est être dans l'échange. Et être dans l'échange, c'est reconnaître la personne dans ce qu'il est et pas dans son état. Et la question du handicap, si on ne l'aborde pas sous le phénomène de l'humanisation de l'administration et dans le phénomène de l'empathie, on ne sera que dans le phénomène de la gestion. Et ça, on refuse de gérer que des dossiers. Je pense que la loi de 2005, elle a mis en place aussi la MDPH, donc... Avant d'être directeur de cabinet, j'étais directeur de la MDPH et psychosociologue de formation. Donc, on a fait un choix au niveau de la MDPH. Pardon. C'est travailler au niveau de la CDAPH, donc la Commission des droits et de l'autonomie, de mettre en place un travail de partenariat avec l'éducation nationale. Parce que là, on arrive au champ universitaire, mais c'est le travail en amont sur la question de l'école qui est importante, sur la question de l'accompagnement, sur la question de l'annonce du handicap, c'est-à-dire comment dire à des parents, comment les préparer, comment aussi ne pas être abrupt dans la décision. Il ne faut pas que les parents reçoivent une notification de la MDPH. Votre enfant est reconnu handicapé, qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a tout un travail d'accompagnement qui se met en place avec les équipes médicales et psychologiques aussi de l'éducation nationale, du Conseil général, mais aussi quelque chose de très important avec les associations. Ne pas travailler avec les associations, c'est une erreur monstre. C'est-à-dire qu'on a mis en place ce qu'on appelle des comités de citoyenneté. Leur objectif, les comités de citoyenneté, c'est d'être sur des thématiques bien précises. Par exemple, là, on avait travaillé sur la question de l'autisme, la question de la scolarisation, la question du handicap psychique, qui est très, très important et qui est reconnu dernièrement donc, dans la loi de 2005. Même dans la question de l'évaluation, comment on évalue un handicap psychique. Par exemple, une personne qui ne vient pas à un rendez-vous, on ne va pas la sanctionner, c'est-à-dire on va voir pourquoi, peut-être ce jour-là, il y a une situation qui fait qu'il était en situation de mélancolie, en situation de dépression, en situation de retrait. Donc, quand je disais humanisation, c'est-à-dire ce n'est pas un mot vain, c'est un mot vraiment qui est important et qui doit être inscrit aussi dans notre procédure de prise en charge des personnes en situation de handicap. La question du handicap aussi, quand je disais de l'empathie, c'est pas aussi de tomber dans la question de la charité. C'est-à-dire que la question du regard, j'avais pris une phrase d'un kiné qui fait partie d'une association qui est malvoyant, Alain Leplay, et donc il est président de Regard Positif. Lui dit, ne jamais abdiquer, il faut toujours avancer parce qu'il y a toujours du rêve à prendre. Et s'arrêter, c'est renoncer, prendre le risque de ne plus pouvoir repartir. Et le renoncement, c'est aussi de laisser les personnes en isolement. La question du maillage, peut-être je reviendrai tout à l'heure, M. Blandin, pour laisser un peu la parole un peu à tout le monde, mais je dirais le travail de partenariat a fait que, je vous prendrai deux ou trois exemples. Un premier exemple, par exemple, on avait une scolarisation d'un enfant qui devait être dans un collège dans le Morvan. Une équipe d'ergothérapeutes a fait donc le devis, il fallait 150 000 euros ou 200 000 euros pour créer un ascenseur et autres. Sauf qu'une deuxième ergothérapeute est arrivée, elle a travaillé avec les associations, avec les familles et autres. Ça nous a coûté 15 000 euros parce qu'elle avait trouvé, elle était dans la recherche justement, il y avait des équipes universitaires qui avaient travaillé sur un appareil qui venait, je ne sais pas de quel pays. 15 000 euros, c'était un système avec les chars, vous savez, de chenilles, qui montent les escaliers. Comment ? Voilà, mais c'était pas. Donc c'est le fauteuil qu'on met sur les chenilles, donc qui pourrait servir à quelqu'un d'autre. 15 000 euros, ça a permis aussi à un enfant de ne pas aller à Dijon, par exemple, de faire quelques kilomètres et autres. Je crois que tous les jours, c'est un combat, et ce combat, on ne peut pas le faire tout seul. C'est pour ça que le Conseil Général, c'est une institution, peut-être en voie de disparition, mais j'espère pas. Mais voilà. Mais les deux mots qui sont importants pour nous, c'est la question de l'humanisme et la question de l'empathie.
Est-ce que vous indiquez deux choses, et une sur laquelle je souhaiterais que vous puissiez apporter des compléments. D'abord, ce que vous avez indiqué, c'est-à-dire dans ces politiques du handicap, il est très important de mobiliser l'ensemble des ressources que l'on peut avoir, et les associations notamment sont des ressources précieuses pour accompagner, appuyer un ensemble de dispositifs. Et vous l'avez clairement mentionné. Et puis, dans nos échanges, vous indiquiez aussi que, en tout cas, je l'ai compris comme ça, que autant on a besoin de dispositifs parce que c'est quelque chose qui structure, qui permet de se projeter, d'évaluer, etc., etc. Mais en même temps, on a besoin aussi de pragmatisme. On a besoin d'essayer de se mettre ensemble pour trouver des solutions. Donc que le dispositif ne suffit pas. C'est aussi ce que vous appelez, il me semble, l'humanisme, peut-être. En tout cas, une capacité des uns et des autres à se retrousser les manches, d'une certaine manière, pour pouvoir se mobiliser pour trouver des réponses concrètes à des situations concrètes.
Exactement, la question du partenariat. Bon, tout à l'heure, la table ronde, j'ai découvert l'association Apache et je vais faire un retour par rapport à notre MDPH. Je pense que c'est important parce que ce qui nous bloquait, nous, dans un département où on a aussi des étudiants qui viennent à Paris, qui vont à Strasbourg, qui vont un peu dans toutes les villes, qui vont même à l'international, c'est-à-dire qu'on a un phénomène de rupture après le bac, c'est-à-dire quand ils rentrent dans l'enseignement supérieur, même si on est le domicile de secours. Ce qui fait que si on a un relais associatif, ça c'est important. Donc moi aussi je suis venu ici pour apprendre et relayer donc sur notre département. La deuxième chose, le fait, puisqu'on parle des métropoles aujourd'hui, le fait qu'une MDPH soit aussi à taille humaine, il y a plus de possibilités d'accompagnement des étudiants ou des élèves et autres. Et deux petites réussites. La première, c'est qu'il y a eu un accompagnement d'une élève qui était du premier degré, deuxième degré, qui a été elle a fait Sciences Po Paris. Là, maintenant, elle travaille au ministère des Affaires étrangères. Et là, parce qu'on est, tombé sur des personnes. Donc, ça aussi, quelquefois, c'est de personne à personne. La deuxième chose, c'est au niveau professionnel, quand vous parliez du partenariat. On a travaillé sur un champ, que ce soit l'insertion professionnelle, l'insertion sociale, la scolarisation, la réussite au niveau des études et autres. D'ailleurs, la Nièvre fait partie des départements où il y a un taux de scolarisation des élèves dans le primaire, un des plus élevés de France. Pourquoi ? Parce qu'il y a un investissement de l'inspecteur ASH et du DAZEN. Et par exemple, ce centre d'appel cherchait des personnes et les seuls sédentarisés, disons, dans la Nièvre, c'est des personnes en situation de handicap. Donc, il y a un processus de formation qui s'est mis en place. Et aujourd'hui, par exemple, le superviseur, c'est un malentendant. Et l'erreur que nous, on a faite quelquefois aussi, c'est de croire... je vous donne un exemple. On avait sorti un document en braille, mais sans travailler avec les associations au départ. Mais on s'est mis le doigt dans l'œil, si j'ose dire. C'est qu'on avait tout faux. Et donc, la responsable de l'association a dit non... la question du braille, tout le monde ne lit pas le braille. Voilà, c'est des choses comme ça à éviter. Et quand on travaille en partenariat, on gagne du temps.
Très bien, merci monsieur. Alors, je me retourne vers madame Dumetier, pardonnez-moi, et monsieur Briot. Alors, à la fois, je ne sais pas comment vous êtes organisé, mais à la fois pour que vous précisiez l'expérience particulière qui est la vôtre, pour qu'il y ait quand même des éléments de contexte, et puis de manière de question de fond, Peut-être que vous nous indiquiez comment ce partenariat et ce travail coopératif que vous avez mené, qu'est-ce que ça a permis de plus? Qu'est-ce que ça apporte aux uns et aux autres de travailler ensemble d'une certaine manière?
Donc l'INRA est investi depuis de nombreuses années dans une politique handicap. Alors vous avez largement évoqué la question du recrutement, du maintien dans l'emploi. Et l'INRA s'est aussi investi d'établissements comme le Pommeret, pour remplir un certain nombre d'activités qu'aujourd'hui, avec l'évolution de l'Institut, on ne remplit plus, je dirais, de manière en direct avec nos propres personnels. Donc traditionnellement, on a en tout cas conclu un certain nombre de prestations de services en utilisant en tout cas les possibilités ouvertes par le Code du marché sur des prestations assez classiques du type fourniture de papeterie, impression et puis entretien d'espaces verts parce que l'INRA, compte tenu de ses axes de recherche, est un propriétaire foncier assez important. Donc ça s'inscrit, je dirais, depuis de nombreuses années dans une tradition, je dirais, d'établissement, de participer en tout cas à l'inclusion des personnes handicapées par le biais de ces passerelles, je dirais, entre ces établissements et nos collectifs de travail. Alors sur Rennes, ça a été, je dirais, une expérience assez particulière et du reste, ça a été évoqué dans le cadre des précédents entretiens, une volonté en tout cas très forte de la direction de notre centre de recherche de Rennes, donc le président de centre et son directeur des services d'appui, de pouvoir en tout cas développer un partenariat un petit peu plus important avec l'établissement du Pommeret qui intervenait déjà, et dans le cadre de la fourniture en tout cas du service de restauration pour tous nos agents de ce site. Alors pour nous, c'est une expérience un petit peu particulière, puisque c'est un des marchés qui en tout cas est très important en termes de volume, mais qui aussi a un enjeu important, parce que la restauration au sein de l'INRA, c'est quelque chose de très très, en tout cas, bien observé et avec un contrôle en tout cas assez important de nos partenaires sociaux en interne. Donc le Pommeret, en tout cas, remplit depuis de nombreuses années. Du reste, le marché a été renouvelé en ce début d'année. La prestation de restauration pour ce site. Et ce qui est important, outre le fait, en tout cas, ce que ça apporte à l'INRA, c'est que ça permet, en tout cas, de pouvoir sensibiliser et de montrer le fait que vous avez des personnes handicapées qui ont des compétences, de renforcer, en tout cas, le discours de compétence sur lequel nous on est très attachés, à la fois pour nos propres personnels que nous recrutons ou que nous sommes amenés à accompagner dans le cadre de l'arrivée du handicap en cours de carrière, mais aussi de pouvoir en tout cas faire passer le message que l'on peut avoir une prestation de service de qualité avec des partenaires type le Pommeret. Et ça, en tout cas, c'est un des messages que je souhaiterais faire passer aujourd'hui, c'est que nous sommes tout aussi attentif et exigeant au regard de la qualité de service, que ce soit avec, je dirais, un autre acteur du marché plus classique.
Monsieur Briot, peut-être des compléments.
Oui, la première chose que je voudrais dire, c'est que lorsqu'on pense aux ESAT, ce qu'on appelait avant les CAT, on pense éventuellement papeterie, on passe petit boulot, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner, éventuellement le nettoyage, donc l'entretien des locaux. Bon, les espaces verts, effectivement, quand il y en a beaucoup, mais on ne pense pas non plus, on le pense en termes de handicap, on ne le pense pas en termes de compétences. Et je pense que notre combat, nous, au Pommeret, et à un certain nombre de directeurs des ESAT, c'est de dire, avant tout, c'est la compétence qui compte. Et je rejoins complètement ce qui a été dit par le DRH de l'Université de Rennes 1, c'est-à-dire que c'est ça, en premier, qui compte. Et on ne pourrait pas assurer des prestations de cette ampleur-là si on se basait sur une approche handicap ou plus ou moins misérabiliste. Alors qu'est-ce que ça approche ? Juste un petit passage. On est aussi organisé dans une association nationale des DRH ou des directeurs des ESAT au niveau national qui s'appelle Handicat, sur lequel on a une tribune où on dénonce la vente forcée de papeterie qui se fait via des structures commerciales en mettant en avant le côté misérabiliste du handicap. Donc on est très éthique aussi par rapport à ça.
Qu'est-ce que ça apporte, une collaboration comme ça, puisque c'était ça la question. Juste un petit mot, les ESAT en général ont été créés dans les années 75, majoritairement par des familles qui ne trouvaient pas d'emploi pour leurs enfants devenus adultes. Et la question qui se posait était généralement de trouver un emploi adapté qui puisse les conduire jusqu'à la retraite. Je fais très très vite. Dans les années 80 et 90, d'autres types de structures se sont montées, comme le POMRE, qui ont été montées à l'initiative de personnalités de la société civile, des enseignants, des chefs d'entreprise, etc. Et le but du POMRE n'est pas d'offrir des emplois adaptés jusqu'à la retraite, mais de former des personnes sur une durée de 3 ans à travers des plateformes économiques qui soient le plus proche de la réalité pour les insérer dans le milieu ordinaire. On est une dizaine d'ESAT de ce type-là. C'est aussi pour ça, peut-être, qu'on a pu travailler avec l'INRA, puisque l'INRA a cherché à reproduire l'expérience ailleurs et n'a pas forcément trouvé de partenaire. Alors, ça veut dire quoi, créer des plateformes un peu particulières? On gère, par exemple, un jardin floral qui accueille 100 000 personnes par an, où on forme des agents d'accueil et des ouvriers paysagistes. 100 000 visiteurs par an en Bretagne, vous savez qu'il pleut toujours, c'est le record de tous les parcs bretons privés. Puisqu'on a été capable de renverser l'image du handicap en disant ce ne sont pas les personnes handicapées qui vous accueillent, ce sont des gens qui sont compétents, mais par contre vous, valides, c'est vous qui êtes sacrément handicapés, parce qu'à force d'être le nez sur votre télé et sur vos écrans tactiles, vous avez complètement perdu l'usage des sens. En conséquence de quoi, on a développé des parcours sensoriels qui permettent de marcher du pied, etc. Donc je vous passe, on a plein d'autres activités, et je reviens à l'INRA. Pour l'INRA, donc, l'idée c'était d'offrir une plateforme d'apprentissage sur un self, parce que nous avons par ailleurs 2 autres restaurants, un restaurant traditionnel où on forme des serveurs, et un restaurant de restauration rapide, puisque c'est le premier secteur d'emploi maintenant en France, dans la restauration. Donc, du coup, c'était de pouvoir développer cette prestation-là sur un grand self, puisqu'on fait 250 à 300 repas par jour, dans le site de l'INRA, à partir d'un cahier des charges qui était très exigeant, et qui avait des prétentions quand même assez élevées. C'est-à-dire que faire dans la restauration collective un volume de bio qui est bien au-delà de l'obligation légale, puisqu'on est à 25% de bio, on est à 52% de produits locaux. On réfléchit aujourd'hui à la demande de l'INRA sur fournir des repas végétariens tous les jours pour des volumes comme cela. C'est une vraie remise en cause, y compris des modes culinaires, et ça veut dire vraiment de la compétence qui ne se trouve pas forcément facilement. Donc, ce que ça nous apporte dans une collaboration comme ça, la première chose, c'est toujours de nous remettre en cause, nous, pour toujours pouvoir emmener plus loin les personnes que nous accompagnons pour trouver un emploi demain pour elles. Donc, c'est cette chaîne-là qui est intéressante. Alors, bien sûr, c'est grâce à la direction à l'époque de l'INRA et aux partenaires sociaux qui se sont très fortement investis sur cette volonté-là. Je reviens juste un tout petit peu là-dessus, parce qu'une fois que ça a été signé, on a bien senti, nous, que, oh là là, c'est quand même des personnes handicapées qui vont faire à manger. Est-ce qu'ils vont être capables de réussir? Et on a eu ces réactions. C'est-à-dire, on a eu des contrôles plus importants, ce qui était logique, on prenait le marché. Mais c'était pas si simple que ça, parce que derrière la belle idée, quand on la met en pratique, il y a tout de suite des doutes qui arrivent. Aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'on le fait, on a été encore renouvelé pour 4 ans, donc il n'y a pas vraiment de soucis. La dernière chose que je voudrais dire par rapport à cette collaboration, elle est sans arrêt, on apprend en marchant. Et il y a des initiatives qui partent de notre part ou de la part de l'INRA. Donc on n'est pas simplement un prestataire. Juridiquement, on est dans le cadre d'un marché, on peut être vidé n'importe quand. Mais on est aussi un peu un partenaire. Et j'insiste là-dessus parce que c'est le regard aussi qui a changé, qui fait qu'on évolue, on est capable de faire des choses parce qu'on a été capable de répondre sur la compétence. Par exemple, aujourd'hui, il y a peu de restaurants, de collectivités qui le font. On a eu toute une réflexion sur les déchets, la gestion des déchets. Alors, en amont, dans la cuisine, c'est facile. Tout ce qui est épluche, etc., on peut composter. Mais le faire, y compris avec les convives de l'INRA, qui mangent tous les jours en sortie de plateau, que eux-mêmes trient pour éliminer une part des déchets, pour ne pas envoyer à l'incinérateur, c'est aussi des démarches comme ça. Je finirai juste, pour ne pas mobiliser mon intervention, sur un élément. C'est un petit peu une remarque de ce matin. J'étais choqué un petit peu en voyant le titre du livre, parce qu'il y avait un paradoxe, de mon point de vue, entre le contenu et le titre. C'est-à-dire, l'étudiant handicapé, je m'attendais à trouver de l'étudiant en situation de handicap. Fort heureusement, dans le bouquin, c'est très bien précisé. Et il y a la définition du handicap qui précise bien que le handicap, pour faire très vite, il est surtout lié aussi à l'environnement dans lequel on est. Alors je finirai juste par cette anecdote que je rappelle toujours dans les interventions parce qu'elle me semble assez être illustrative de ce que c'est l'insertion et la question du handicap. La télécommande pour votre télévision, elle a été inventée par les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, je peux vous dire que vous, valide, quand vous avez perdu votre télécommande sous les sièges du fauteuil, c'est vraiment vous qui êtes handicapé.
Oui. Il est juste de rappeler qu'effectivement, c'est moins la personne qui est handicapée qu'un environnement qui crée handicap par rapport à des difficultés particulières. Peut-être, je reviens malgré tout, madame, est-ce que ce partenariat a permis soit un changement de regard ou une façon de mettre plus naturellement d'autres types de politiques sur la question du handicap? C'est-à-dire, en quoi ce partenariat a été un point d'appui pour autre chose qui pouvait être inattendue et pas du tout anticipée au moment, parce que là, ça fait 7-8 ans, donc ça a quand même une très longue histoire. Voilà, donc est-ce que vous avez trouvé là, pas simplement une réponse au fait de faire des repas, mais que ça a permis de peut-être autre chose au sein de votre propre politique sur le handicap?
Je pense que ça nous a permis en tout cas de pouvoir aller un petit peu plus au-delà, de dépasser en tout cas la simple question de la politique handicap par le prisme du recrutement, mais de pouvoir en tout cas faire de toutes nos relations, on va dire, contractuelles mais partenariales, je pense que c'est vraiment ça le terme, de pouvoir en faire un vrai pilier de notre politique, on va dire, globale, handicap. Et de montrer aussi qu'on peut avoir des prestations de grande ampleur, de qualité, qui peuvent être réalisées par un ESAT.
Voilà. Est-ce que, par exemple, ça a pu permettre de faire la preuve, la démonstration que l'on peut avoir des personnes en situation de handicap, mais ayant des compétences et un haut niveau de compétences pour gérer un tel exigence de repas, de préparation de repas, etc. Et donc, derrière, de dire, bah, effectivement, là, vous voyez que nous, dans nos politiques d'emploi, de recrutement sur les différents trucs, on a aussi une possibilité de faire confiance à des compétences, même si la personne est par ailleurs touchée par des formes de handicap.
Ça, sans aucun doute, en tout cas, sur le site de Rennes et puis sur l'ensemble de nos sites, puisqu'on en a fait quand même une large communication du dispositif, ça a permis en tout cas, notamment auprès des managers qui peuvent encore avoir un petit peu de réticence ou en tout cas des idées reçues sur le fait de recruter un collaborateur au sein de son équipe. Je rappelle quand même qu'on travaille dans des équipes de recherche avec la question de l'excellence scientifique, des projets scientifiques qui est rappelé constamment. Ça a permis en tout cas, sans nul doute, pour nos directeurs d'unité de pouvoir se lancer et de se dire bah « oui, je vais recruter un collaborateur parce qu'avant d'être handicapé, il va apporter des compétences, il va me permettre de répondre moi à mes objectifs, en tout cas scientifiques ». Et donc, sans nul doute, ça a été en tout cas un des paramètres qui nous a permis en tout cas de pouvoir démontrer toute la compétence, enfin toutes les compétences que pouvait apporter la richesse aussi au sein de nos collectifs de travail que peut apporter en tout cas le recrutement d'un collaborateur en situation de handicap.
Vous vouliez faire un commentaire, M. Morillo?
Je voulais compléter juste par rapport à la communication qu'on fait sur le site de l'INRA. On communique aussi dans le journal interne de l'INRA et on fait passer un certain nombre de communications, jamais sur le handicap. On fait passer une communication en disant, vous voyez, l'INRA a permis à travers cette plateforme-là d'insérer telle personne qui travaille dans tel endroit aujourd'hui. Et ce que je veux dire, c'est notre fondamental, nos fondamentaux, ça. Et c'est ça qui nous permet ensuite d'aller voir les entreprises, les collectivités, les établissements publics en leur disant, nous avons des personnes qui ont travaillé, qui savent travailler. Et encore, elles sont souvent... Mais ça, on ne le met pas en avant de cette façon-là, mais pour le faire comprendre, je vais l'expliquer comme ça. Elles sont souvent beaucoup plus motivées, présentes au boulot, et quelquefois une demi-heure avant le boulot tous les jours, parce qu'elles ont une revanche à prendre sur la vie.
Très bien, merci. Alors, je me tourne vers vous, Madame Cadieux et Monsieur Lefranc. Donc, vous avez ce partenariat avec des entreprises privées, différentes entreprises, à l'échelle d'un territoire, peut-être présenté, et puis il a aussi indiqué, voir la genèse de cela, et présenter à minima ce partenariat, et puis quels enseignements ou quelle dynamique cela a pu créer, peut-être déjà à l'échelle de l'université.
Alors, d'abord, c'est quelque chose qui est mis en place en Midi-Pyrénées, à l'initiative de Gérard Lefranc, ici présent, qui a su rassembler le monde du supérieur, que ce soit les écoles d'ingénieurs ou les universités, donc les établissements pour Midi-Pyrénées de l'Express alias la Commu, tous les établissements fondateurs et membres, le rectorat, l'ONICEP, la Direct et un consortium de grosses entreprises dont Gérard vous parlera plus largement. C'est à l'échelle d'un territoire, puisqu'on est une grosse académie, donc ça représente 8 départements avec tout ce que ça implique. 8 MDPH par exemple, et des établissements du supérieur qui sont présents partout. Parce que par exemple sur Midi-Pyrénées, nous avons 13 IFSI, instituts de formation en soins infirmiers, qui vont de Millau à Tarbes, en passant par Rodez. Midi-Pyrénées, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais géographiquement c'est grand quand même. Et puis c'est surtout très disparate. On a aussi des IUT, un gros IUT à Tarbes, un IUT à Castres, un IUT à Auch, un IUT à Albi. Une école d'audioprothésistes à Cahors, et j'en passe. Donc cette convention nous a permis de soutenir des élèves de la classe de 3e à Bac plus, jusque là où ils veulent aller. Si on doit pouvoir les amener en thèse, on essaiera de les amener en thèse, mais si un étudiant veut faire un DUT ou une licence pro, c'est en fonction de ses désirs qu'on l'accompagnera. Donc il y a aussi une aide financière des entreprises, Gérard vous en parlera aussi. On est en train de reconduire cette convention et de l'élargir, puisqu'on voudrait là aussi, qu'on prenne un peu plus en compte tout ce qui est alternance. On en a parlé ce matin, mais ça nous paraît capital. Et deuxièmement, on aimerait aussi qu'on parle des différentes fonctions publiques comme des employeurs potentiels et que quelque part, ils nous rejoignent dans cette convention. Puisque je crois savoir que la fonction publique est le plus gros employeur dans France. Donc il serait intéressant qu'ils nous rejoignent, qu'ils participent au même titre que, nous étant Midi-Pyrénées, c'est sûr que c'est peut-être plus facile parce qu'on a Airbus, par exemple. Mais on a un gros bassin d'emploi qui nous a permis de créer des liens. Et ces aides s'adaptent sur tout le territoire. Par exemple, on a des cordées de la réussite qui ont été montées à Tarbes. On est en train d'en monter une à Castres. Je passe la parole à Gérard.
Merci Laurence. Alors, puisque j'ai la parole, je vais quand même faire un préalable. Je vais faire un préalable d'abord pour dire que ici je m'exprime certes au nom de Thalès, mais aussi au nom d'un ensemble d'entreprises qui travaillent très étroitement avec les universités dans l'accompagnement des jeunes, parce que on a trouvé que c'était très important de le faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc je dirais nous, vous ferez avec. Et on est, nous aussi, en train de créer une association des directeurs de mission handicap des entreprises, peut-être pour faire comme Apache, on ne sait jamais, on peut peut-être y arriver. Alors, ce que j'ai entendu ce matin, ça me rappelle tout à fait ce qu'on fait, mais c'est du copier-coller en entreprise, ce que vous appelez le chemin directeur, nous on appelle ça le plan handicap. Les axes sont quasiment les mêmes, donc on ne va pas revenir dessus. On a eu la chance, parce qu'il y avait la GFIP et puis une obligation d'emploi de personnes handicapées avec une contribution qui date depuis des années, de, par exemple, comme un groupe comme Thalès, d'être dans ces logiques de conventionnement et de politique handicap depuis 24 ans. Donc une certaine expérience. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi doucement pour mettre en place les schémas directeurs. Toutefois, il y a des éléments importants. Ce schéma handicap, tel que je l'ai entendu, je pense qu'il y a une petite... Je ne suis pas là pour donner des leçons, mais il faut peut-être des éléments d'expérience. Vous parlez d'embauche, je préférerais qu'on parle d'emploi. L'emploi, c'est l'embauche, mais croyez-moi, ce n'est pas avec ça que vous aurez 6% de personnes handicapées dans vos effectifs, sauf si vous êtes dans la grande distribution où vous gérez des flux. Donc, il y a l'embauche, certes, il y a le maintien dans l'emploi des personnes handicapées aussi. Et cet axe est un axe fondamental des politiques handicap. Pourquoi ? Parce que les personnes qui deviennent handicapées ou qui sont handicapées dans vos, dans nos entreprises et dans vos universités, c'est celles qui vont acquérir des talents. Et c'est très compliqué de dire « je vais me passer des talents d'une personne parce qu'elle devient handicapée ou parce qu'elle est handicapée ». Donc, il faut mettre en place les plans d'évolution, de carrière aussi. Donc, le maintien dans l'emploi, c'est très important. Et puis, la sous-traitance au secteur protégé, on vient d'en parler, je pense qu'elle doit être l'avancée. Alors, une fois qu'on a dit ça, je vais revenir à la question initiale. Et puis, au propos de Laurence. Pourquoi on a pensé, nous, entreprises, travailler très étroitement avec les universités et sur des bassins d'emploi? D'abord parce que ce qui guide une entreprise, c'est sa logique de responsabilité sociale. On pourrait y revenir si vous le voulez, mais c'est très important parce que les notations éthiques des entreprises interviennent directement sur la valeur de l'action. Ensuite, dans beaucoup de marchés, que ce soit en France ou à l'étranger, on demande aux entreprises de décliner leur politique handicap. Et enfin, cette année, pour la première année, les commissaires aux comptes sont venus vérifier ce que les entreprises disaient dans leur rapport d'entreprise concernant le handicap. Donc un élément important. Il y a quelques années, vous l'avez connu, les entreprises étaient en ordre dispersé et sonnaient à la porte des universités pour dire « combien avez-vous d'étudiants handicapés ? Il m'en faudrait ». Et les entreprises disaient aussi à la direction du travail « nous ne pouvons pas embaucher de personnes handicapées parce qu'elles n'ont pas les formations requises pour rentrer dans nos entreprises ». Les choses ont changé et sont en train de changer. Les entreprises sont parties du principe qu'au lieu de se désoler, il fallait accompagner la formation. D'où les accords qui ont été mis en place, à la fois avec des universités en particulier, et Fabienne qui est ici présente le sait, parce que c'est la première université, quand elle était à l'université Pierre-Marie Curie, où on a mis en place avec un ensemble d'entreprises des accords pour l'accompagnement des étudiants. Mais avec Toulouse, aller beaucoup plus loin, travailler très en amont, dès le collège, dès le lycée, pour que ces jeunes puissent avoir des parcours dans le plus loin possible dans leur formation. Alors, qu'est-ce que ça nous a apporté, nous, entreprises ? Parce que je pense que c'est ça dont je vais pouvoir vous parler. D'abord, une connaissance de certains types de handicaps qu'on ne connaissait pas et qu'on doit intégrer de plus en plus dans nos entreprises. Je vais parler du... je vais parler de la dyslexie, de la dyspraxie, de la dysphasie, donc tout ce qui est autour des 10. Vous parlez du handicap psychique et d'autres types de handicap parce que les universités ont un savoir-faire phénoménal et nous, on a beaucoup appris des relais handicap des universités. Il y a dans ces relais handicap des personnes qui ont des compétences sur l'accompagnement et l'intégration du handicap, notamment bon, alors dans les formations, mais aussi en milieu professionnel, des étudiants handicapés. Et l'entreprise a beaucoup appris. Par contre, je pense que le moment est venu maintenant, à la lumière du schéma directeur qui se met en place, de rentrer dans un autre type de coopération. Je pense que ça fait partie de votre deuxième question, d'après ce que j'ai vu sur le fil rouge. Et ça va venir éclairer... Oui. Et ça va, non, je le ferai tout à l'heure. Ça va venir éclairer d'une façon différente les coopérations et les partenariats qu'on peut mettre en place dans les régions ou sur les bassins d'emploi. La logique d'une entreprise, c'est le bassin d'emploi. Elle se doit, en tant que voisin responsable, dans sa politique de RSE, d'être un acteur important dans l'emploi. Donc, les deux acteurs importants dans une région actuellement, on le voit, ce sont les entreprises, alors on va parler des grandes entreprises qui vont tirer les petites et moyennes entreprises, et je vous conseille de regarder l'accord UEMM qui a été signé le 12 décembre de l'année dernière sur l'accompagnement par les petites et moyennes par les grandes entreprises et petites et moyennes entreprises, et j'ai fait en sorte qu'il y ait un volet sur la coopération avec l'enseignement supérieur. Donc il y a ça qui est très important, et puis travailler dans une région avec tous les acteurs de la région, ensemble, pour qu'il y ait vraiment des politiques qui se mettent en place et des positifs qui n'admettent pas les régressions, mais je vous expliquerai tout à l'heure comment on peut faire.
Très bien, merci. Monsieur Nicole, peut-être pourriez-vous nous indiquer la manière dont le F...
Je vous rassure, utilisez FIP, hein, on va se comprendre.
D'accord, FIP, très bien, merci à vous. Participe au développement des collaborations des acteurs sur le champ du handicap, la manière dont vous intervenez aussi en appui auprès des universités et des établissements de recherche.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Vous m'excuserez pour une voix défaillante due à une mauvaise bronchite. Je vais essayer de m'exprimer avec force et peut-être vigueur également pour répondre à cette question et à ces interrogations. Je voudrais préalablement, même si mon propos peut vous paraître assez trivial, je voudrais très directement vous dire le FIPH, le FIP, c'est quoi ? Ça sert à quoi et à qui et comment ça fonctionne ? Avant d'aborder la question des partenariats et des relations avec les établissements d'enseignement et de recherche. Vous avez parlé de la loi handicap de 87, hein, qui a posé l'obligation d'emploi de 6%, à la fois pour les entreprises privées et pour les entreprises ou le secteur public. À la différence des entreprises privées qui, dès 87, étaient assujetties à une contribution en cas de non-respect de cette obligation, les employeurs publics ne l'étaient pas. La loi de 2005 a remis, si je puis dire, les pendules à l'heure, et en tout cas les secteurs à égalité, en assujettissant les employeurs publics à la contribution qui, on ne va pas rentrer dans les détails, mais est à peu près la même, hein, en termes de modalité de calcul. Et en même temps, a créé le FIP, établissement public national, pour précisément collecter ces contributions des employeurs publics. C'est sa première mission, c'est pas la plus noble, mais enfin, c'est peut-être aussi une mission utile. Et la question qui se pose, c'est à partir de ces financements collectés, je rappelle qu'en 2013, ces financements ont représenté à peu près 149 millions d'euros. Ces financements, ils servent à quoi ? Ils servent principalement à favoriser auprès des employeurs publics la mise en œuvre d'actions ou de politiques incitative au recrutement, au maintien dans l'emploi, à la formation et à l'accessibilité, qui est un sujet un peu transverse. Ces financements sont sous-tendus par ce qu'on appelle, au FIP, des financements spécifiques, dédiés, et je reviendrai non pas dans le détail, mais j'aborderai ces éléments, parce qu'ils font écho à ce qui a été dit ce matin, parfois. Ces financements sont destinés aux employeurs publics, bien évidemment aux personnes en situation de handicap, bénéficiaires de l'obligation d'emploi, mais je le précise, également les agents qui sont en restriction d'aptitude constatée par le médecin du travail ou le médecin de prévention, et ça c'est un élément important à souligner. Quels sont ces financements, même si je ne vais pas vous dresser une liste à la Prévert, mais je crois que c'est utile de le préciser. Bien évidemment, les financements destinés aux aménagements de postes de travail, les financements destinés à financer des prothèses, et notamment les prothèses auditives, ça représente 40% à peu près des financements du fonds, les financements destinés à financer les transports adaptés, domicile-travail, des financements, et là je fais écho à un certain nombre de questions qui ont été évoquées, enfin de sujets évoqués, qui permettent aux employeurs publics d'accueillir des étudiants en stage. Des financements qui visent également à prendre en charge une bonne partie des rémunérations des agents qui sont recrutés par la voie de l'alternance. Et ça, c'est un élément sans doute intéressant sur les sujets qui nous préoccupent. Et puis, alors là, plus directement, ça a été en filigrane évoqué ce matin, le financement de bourses doctorales ou la participation au financement de bourses doctorales à hauteur de 10 000 euros par an sur une durée de 3 ans. Voilà le panorama très rapide. Alors ça fonctionne comment, le FIP, cet établissement public national ? Selon trois modalités. La première, c'est la mise à la disposition de tous les employeurs publics, qu'ils soient assujettis ou non, au fonds. Là, je rappelle que sont assujettis les employeurs qui ont plus de 20 équivalents temps plein. Alors là, ça ne vous concerne pas, bien évidemment. Enfin, ça vous concerne, bien évidemment. Mais il y a un grand nombre de collectivités, notamment territoriales, qui ont moins de 20 équivalents temps plein. Ces collectivités sont bien évidemment éligibles à ces financements. Et principalement, pour elles, nous avons mis à leur disposition ce qu'on appelle une plateforme dématérialisée sur laquelle elles peuvent, enfin tous les employeurs d'une façon générale, peuvent déposer leurs demandes et être en contrepartie, bien évidemment, financés selon des modalités dans lesquelles je ne vais pas rentrer. Ça, c'est la première des modalités. La deuxième de ces modalités, c'est la proposition, pour faire simple, aux grands employeurs publics, généralement de plus de 1000 agents, de contractualiser avec le FIP, un dispositif donc conventionnel, qui est un dispositif d'appui financier à la mise en œuvre d'une politique handicap au sein des services de l'employeur concerné. Alors, toutes les conventions sont structurées sur les mêmes axes, hein, et j'en reviens aux missions principales du fonds, favoriser le recrutement, favoriser le maintien dans l'emploi, à s'organiser pour permettre le maintien dans l'emploi, favoriser la formation des agents en situation de handicap qui sont recrutés pour permettre une amélioration régulière, une élévation régulière du niveau de qualification, et puis financer des dispositifs d'accessibilité, etc. La troisième modalité, dont on parle peut-être un peu moins et qui là commence à renvoyer à la question du partenariat, c'est précisément la mise à la disposition de tous les employeurs publics dans le cadre du partenariat que nous avons bâti avec la GFIP, qui est notre pendant ou alter ego pour le secteur privé, la mise à la disposition des employeurs publics de prestations et de prestataires favorisant précisément notamment la question du recrutement à travers les Cap Emploi, qui sont chargés et investis d'une mission de service public d'accompagnement des personnes en situation de handicap et en recherche d'emploi, d'accompagnement vers l'emploi de ces personnes. La mise à la disposition des prestations des SAMET, les services d'appui au maintien des travailleurs handicapés. Et les employeurs publics peuvent mobiliser ces dispositifs et ces prestataires lorsqu'ils sont confrontés à une situation de maintien dans l'emploi pour laquelle ils ne trouvent pas de solution, et puis sont associés à ces prestataires des prestations, des expertises à travers ce qu'on appelle les prestations ponctuelles spécifiques, s'agissant du handicap visuel, auditif, moteur et psychique désormais, et bien évidemment également des prestations d'études ergonomiques préalables aux aménagements de poste. Voilà. Les trois modalités de fonctionnement du fonds et de mise à disposition de ces moyens. S'agissant plus directement des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, je dois citer trois éléments. Nous avons passé avec, si ma mémoire est bonne, 5 établissements d'enseignement et de recherche que sont le CNRS, et je crois ici présent, qui était là en tout cas ce matin, l'INRA, à travers Madame du métier, l'INRIA, l'IRD, et j'en oublie un, mais l'INSERM. Nous avons passé des conventions que j'évoquais il y a quelques instants. Nous avons également passé, mais sur un autre registre, avec l'École des hautes études en santé publique de Rennes, un partenariat, une convention de partenariat, qui vise à participer au cofinancement de programmes de recherche sur l'inclusion et l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Enfin, et Madame de Groof, au cours de la table ronde précédente, l'a évoqué, nous construisons avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, actuellement, sous, je dirais, le regard bienveillant mais attentif du CIH, qui s'est tenu le 25 septembre dernier, nous construisons une convention, un dispositif de partenariat qui a été évoqué, je n'y reviens pas plus avant. Voilà comment nous fonctionnons et quelles sont nos relations avec le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Comme le temps glisse, j'aimerais qu'on aborde un dernier point, et je m'adresserai à tout le monde, et peut-être à vous en premier, monsieur, si vous le permettez. Dans nos échanges qu'on a eu préalablement, vous avez souvent insisté les uns et les autres sur la nécessité d'abord du partenariat et aussi d'avoir une réflexion territorialisée. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement transnational ou transterritorial ou aterritorial, mais la nécessité d'avoir une pensée territoriale, donc territorialisée, pardonnez-moi, notamment parce que les personnes handicapées ou la question de l'emploi, etc., c'est situé sur un territoire. Alors peut-être, alors pas toujours, je prends des raccourcis pour aller plus vite, mais peut-être indiquer cet élément-là, cet axe, si vous le permettez.
Il est bien entendu que sur le champ du handicap qui nous intéresse, je parle au nom du FIPHFP, on est sur le champ professionnel, c'est-à-dire du recrutement, de l'inclusion professionnelle, du maintien dans l'emploi, de la formation des agents ou des salariés des entreprises, enfin des employeurs publics. Mais même sur ce champ relativement restreint, parce que ce champ n'est puissent pas toutes les problématiques du handicap et de loin, les acteurs sont nombreux, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils sont nombreux en interne, je crois que inutile de faire une thèse sur le sujet ce matin et les tables rondes de cet après-midi l'ont montré, les services RH, les médecins de médecine statutaire, médecins agréés, comités médicaux, commissions de réforme, les médecins de prévention, les ergonomes, etc., les organisations syndicales à travers les CHSCT, en externe, elles sont tout aussi nombreuses. J'ai évoqué tout à l'heure les prestataires, mais l'ensemble des associations qui peuvent bien évidemment intervenir, la MDPH, enfin, bref, le panorama est assez touffu, parfois complexe. Le constat que nous faisons, que nous avons fait depuis pas mal de temps, c'est qu'en fait, ces partenaires ne collaborent pas, ou très peu, j'exagère, ces partenaires ne collaborent pas ensemble, en tout cas, pas suffisamment. Et cette insuffisance de collaboration, elle est à l'origine de graves dysfonctionnement dans la gestion des carrières d'un certain nombre d'agents ou de salariés des employeurs publics. Alors, pour tenter de vous allez me dire, qu'est-ce que vous faites concrètement ? Parce que nous avons la prétention d'être un financeur, mais pas uniquement d'être un financeur. Nous avons, depuis 2009-2010, organisé ce qu'on appelle des forums régionaux des partenaires du FIP et du monde et des entreprises et des employeurs publics. Ces forums qui regroupaient entre 300 et 400 personnes avaient précisément dans un premier temps pour ambition de faire en sorte que sur un même territoire qu'est la région, ces partenaires se rencontrent, se connaissent et partagent au moins leurs adresses. Dans un premier temps. Et puis parallèlement, toujours depuis 2009-2010, sur des thématiques très particulières, nous avons organisé également une trentaine de journées dites des journées des acteurs de la santé au travail. Alors c'était un cercle plus restreint, responsable RH, médecin de prévention, médecin agréé, ergonome, sur deux thématiques qui nous paraissent centrales et qui sont toujours centrales. qui est le dialogue nécessaire entre la médecine statutaire, la médecine agréée et le médecin de prévention ou du travail. Et sur une thématique, et vous l'avez évoqué, ça a été évoqué en tout cas à de nombreuses reprises, comment maintenir dans l'emploi des personnes atteintes de handicap psychique. Parce que on est tous conscients de l'importance du sujet, mais on est parfois, excusez-moi le terme, un peu comme une poule devant un couteau, c'est-à-dire comment on fait, comment on s'organise. Et l'idée nous est apparue de pérenniser, enfin la nécessité de pérenniser ces collaborations, et pas simplement de les organiser autour de forums ou de journées, de les pérenniser à travers la mise en place d'un pacte territorial. Pacte territorial des trois fonctions publiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le temps est compté, comme on dit. C'est un dispositif d'animation et de développement d'un partenariat régional, précisément, qui vise à mobiliser les ressources disponibles des employeurs publics et à mutualiser les bonnes pratiques. Dans l'optique, l'ambition, la perspective de dynamiser cette politique de l'emploi des personnes en situation de handicap. J'en dis pas plus, je répondrai éventuellement à d'autres questions, parce que je ne suis pas le seul.
Non, je vous en prie. Peut-être une réflexion sur, enfin un commentaire sur cette nécessité d'avoir une réflexion d'ordre territorial. Alors, vous avez un micro là. Alors, par contre, si vous avez la gentillesse, oui, les uns et les autres, d'être court maintenant,
oui,
parce que
je vais le faire très
vite. Nous allons nous diriger vers la conclusion.
Oui, avec les schémas directeurs qui sont mis en place et les accords d'entreprise, ce qu'on voit, c'est qu'on est tous sur les territoires, parce que c'est là que se passe l'emploi. On a Thalès, c'est 52 sites en France, des bassins d'emploi. On doit tous se mettre ensemble pour essayer de dynamiser cet emploi. Et donc, vous parliez des pactes territoriaux. Il y a aussi le ministère du Travail qui met en place les plans régionaux d'insertion des travailleurs handicapés, hein, dans lequel il y a un axe jeune, il y a un axe emploi. Et je pense que entreprise et université, enseignement supérieur, on doit pouvoir se retrouver tous ensemble autour de ces pactes pour essayer de les dynamiser et de les orienter vraiment vers ce qui est important, l'emploi et la formation de nos jeunes.
Vous vouliez intervenir, madame ?
Oui, nous, en Midi-Pyrénées, on fait déjà partie de ces pactes, on est conviés aux journées, etc. Et dans la convention, on a aussi fait intervenir quelqu'un qui nous paraît capital, c'est pour compléter votre propos, c'est qu'on a demandé à ce qu'en Copil, il y ait un médecin inspecteur régional du travail pour faire la liaison, justement, avec le médecin du travail, oui, des entreprises, mmh, ou des fonctions publiques. Parce que si l'arrivée d'un étudiant en stage ou en situation d'emploi n'est pas préparée en amont, avec des aménagements prévus en amont, on se casse la figure.
Monsieur.
Moi, ce que je voulais dire, c'est la question du pacte ou autre. On avait fait une étude sur, en politique sociale sur l'accompagnement des personnes sur le RSA, par exemple. On était arrivé à 34 personnes, de 34 à 60 personnes qui pouvaient intervenir autour d'une même personne. Donc, la difficulté, la complexité. Et donc, le fait qu'il y ait des MDPH, ça a été une des réussites. Je crois que on ne peut pas, par exemple, la COTOREP ou la CDES, mais ça dépend ce qu'on en fait de cet outil. Donc, puisqu'en France, on a la tendance à segmenter les interventions, et le fait de travailler sur une approche globale, c'est-à-dire, et tout en travaillant sur l'accompagnement individualisé, moi, je vous écoute, hein, nous, on est un département rural, avec nos handicaps, comment le compenser? C'est-à-dire, on n'est pas dans la victimisation, on dit on peut le faire. On peut faire autrement, notamment, je ne sais pas si vous avez entendu le concept de nouvelle ruralité sur lequel on travaille, donc avec la Creuse, le Cher et l'Allier, et de se dire tout compte fait, on n'est pas meilleur que les autres, mais on n'est pas plus mauvais que les autres. Et c'est-à-dire que cette question qui nous taraude, hein, sur les politiques sociales et autres, nous, on a fait un maillage territorial, mais bon, comme tous les conseils généraux, hein, sur les sites d'action médico-sociale, oui, et autres, oui, mais en même temps, avoir des interlocuteurs, que les personnes puissent avoir des interlocuteurs, puisqu'on a des problèmes d'enclavement, notamment sur le très haut débit, l'utilisation du très haut débit, l'utilisation de tous ces outils-là, qui font qu'on essaye d'aller de l'avant. Mais en même temps, on souffre de quelque chose, c'est-à-dire que Là, par exemple, la mission Thalès, je ne connaissais pas, hein, par exemple. Moi, je voudrais bien qu'il y ait une connexion avec cette mission-là et les grosses missions pour nos étudiants dans la Nièvre.
Merci.
Juste un mot pour compléter. C'est vrai qu'en France, on est les rois du millefeuille, donc il y a des tiroirs. Donc il faut être toujours dans le bon tiroir. Il y a de multiples tiroirs en fonction des handicaps, en fonction du fait qu'on soit dans un emploi ordinaire ou dans un emploi adapté. Donc on a cité la directe, on a cité les conseils généraux pour la politique sociale vis-à-vis des handicaps et la compensation. Mais il y a un acteur qui n'a pas du tout été cité, c'est le fait de parler des personnes handicap psy qui m'y fait penser, à savoir c'est l'ARS. Qui est un acteur majeur et incontournable sur la politique et le passage du sanitaire vers le médico-social, d'un certain nombre de choses et d'accompagnement et de mise en place de services au niveau des départements, au niveau des territoires, pardon. Donc je pense que dans les réseaux, c'est surtout à ne pas oublier.
Oui, je vous en prie, monsieur.
Je crois que l'ARS, ça dépend aussi du directeur général ou le directeur général qu'on a. Et en même temps, aujourd'hui, les centres de décision sont reportés sur les capitales régionales. Je vous dis que sur les départements où il y a les unités territoriales, on met un paquebot pour aller pêcher la sardine.
Alors, peut-être... merci, je vous en prie. Vous voulez un dernier commentaire ?
Je voulais simplement rebondir sur ce que disait Monsieur Englebert du CNRS ce matin et qui m'a particulièrement... on peut le dire. Et ça fait écho à ce que vous venez de dire sur l'ARS, ça dépend d'eux. Eh bien, la question du handicap, la normalité, c'est la gestion des singularités. Et si on veut que ça ne dépende pas de telle ou telle bonne volonté ou de telle bonne personne, je crois que Monsieur Englebert avait tout à fait raison de dire qu'il faut inscrire les processus de gestion de ces singularités dans le marbre des processus de gestion RH. Et je crois que, si Monsieur Englebert est encore là, j'aimerais m'entretenir un instant après la conférence avec lui sur ce sujet.
Merci. Je vous propose de consacrer, on m'a dit que les contraintes horaires, donc de consacrer un petit temps de 5 minutes à des questions ou des remarques, si vous en avez par rapport à ce qui a pu être présenté. On n'a pas pu aller jusqu'au bout de tout ce qu'on avait prévu, parce que le temps file toujours. J'ai une question. Oui, je vous en prie, madame. Ah voilà, si vous avez la gentillesse, vous l'aurez compris, d'être concise,
ça va être très, très court. Parfait. Donc c'est en fait une question pour Monsieur Nicole. Vous avez cité donc comme dispositif des conventions passées avec des établissements d'enseignement supérieur. Vous n'avez pas cité d'université parmi ces établissements. Est-ce qu'une telle convention est envisageable donc pour accompagner notre politique handicap, par exemple à l'université de Tours ?
Alors les réponses doivent être tout aussi concises que les questions.
J'attendais la question. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour faire simple, merci. Il y a eu une réunion interministérielle, enfin une RIM, hein, comme on dit dans le langage administratif, je crois que c'est le 2 ou le 3 septembre 2013, au cours de laquelle les services du Premier ministre ont dit les universités vont contribuer elles-mêmes, selon leur taux d'emploi, bien évidemment, au financement du FIP à partir de 2015, à hauteur de 30% de la contribution théorique, 100% en 2016, et à partir de 2016, elles pourront, chacune d'entre elles, si elles le souhaitent, bien évidemment, passer une convention de cette nature avec le FIP.
Très bien, merci de votre réponse précise. Alors, une dernière question, madame. Juste là. Même règle du jeu, chère madame.
En fait, ce n'est pas du tout une question. Donc, Béatrice Valdès, enseignant-chercheur à l'EHESP, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit M. Nicole concernant le partenariat avec l'EHESP. Juste pour vous signaler que des plaquettes étaient disponibles à l'accueil. On avait mis des plaquettes concernant le programme, si vous voulez en savoir plus. C'était juste ça.
Merci de cet élément. Très bien. Alors, du coup, peut-être une dernière intervention. Madame. Même règle du jeu.
D'accord. Ma question concerne en fait les MDPH et les partenariats éventuels qu'il peut y avoir entre les universités et les MDPH, notamment pour la reconnaissance qualité travailleur handicapé. Donc en fait, nous, les structures handicap, on essaie de sensibiliser au plus tôt les étudiants pour qu'ils se déclarent. Mais c'est vrai que les démarches demandent énormément de temps. Et la question est de savoir s'il y a des possibilités d'accélérer en fait cette demande, sachant que des entreprises, elles, peuvent le faire, je le sais, puisque dans mes partenariats et coopérations, elles me disent qu'elles peuvent accélérer les démarches.
Si vous voulez répondre, alors si vous avez gentillesse d'être... Parce que la question est très large.
Très court. Par exemple, ça dépend des MDPH, encore une fois, et de la grosseur de la MDPH et de la gestion. Nous, par exemple, dans la Nièvre, ça se fait entre une semaine et 15 jours, ce travail de collaboration.
Sur Paris, et quand on dépend de plusieurs départements... quand il y a plusieurs départements, puisque Paris, c'est la région parisienne, est-ce qu'il y aurait un moyen, justement, de...
Selon la localisation de l'étudiant...
Oui, c'est la
localisation de la personne.
Il y a la réponse dans le guide d'accompagnement de l'étudiant handicapé sous forme de charte à passer avec les MDPH de votre région. Nous, on l'a fait pour les 8 régions de Midi-Pyrénées.
C'est la MDPH de l'adresse de secours, hein, souvent. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un... Quand j'exprimais la difficulté tout à l'heure, quelqu'un qui habite dans notre département, nous, en général, c'est les travailleurs sociaux qui accompagnent en se mettant en relais avec soit un référent handicap ou correspondant, je ne sais pas quelle appellation prendre, au niveau de l'université. Mais je vous dis, aujourd'hui, moi, je suis venu aussi pour apprendre par rapport à notre département sur l'extérieur. Parce que quelquefois, les protocoles sont déjà mis en place et des protocoles qui sont mis en place, ça va très, très vite. Sinon, il y a des perditions.
Très bien. Je vous propose d'abord d'applaudir les participants à cette table ronde, les remercier.